Bonjour, bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Notre invité ce midi, c'est le député Nicolas Metzoff. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation en ce 8 mai pour un magazine Transparence un peu décalé en raison des horaires des jours fériés. Vous arrivez au lendemain des annonces faites par le Premier ministre lors de la réunion multilatérale à laquelle participait l'ensemble des groupes politiques. Sébastien Lecornu confirme la date du 28 juin pour les provinciales. Il propose d'ouvrir le corps électoral aux natifs et aux conjoints. Une ouverture largement insuffisante selon les loyalistes, et nous allons en parler. Le Premier ministre qui vient aussi ce matin de s'adresser aux Calédoniens. Il dit notamment que le statu quo n'est pas un destin. Mais vous, qu'est-ce que vous avez retenu, Nicolas Metzoff, de cette adresse du Premier ministre et quel sens vous lui donnez ?
Je crois que Sébastien Lecornu, dans son intervention, a surtout voulu rappeler qu'il n'y était pour rien. C'est ça que je lis entre les lignes. Ce qu'il nous dit, c'est qu'il a fait en sorte d'avoir une proposition qui puisse être votée par l'Assemblée nationale. Parce que le gouvernement peut proposer ce qu'il veut. Si l'Assemblée nationale ne vote pas la loi que propose le gouvernement, il n'y a pas de loi. On l'a très bien vu avec l'accord de Bougival. Et donc je crois que plutôt que de mener une négociation avec les Calédoniens, Sébastien Lecornu a dû mener une négociation avec les groupes politiques de l'Assemblée nationale. Avec les trois grands blocs, finalement. Avec le bloc de droite, le Rassemblement national, notamment. Le bloc central, les macronistes plus la droite LR. Et le bloc de gauche, dont le Parti socialiste. Et je pense qu'il est arrivé à la conclusion que ne pouvait être voté par ces blocs que une ouverture du corps électoral avec les natifs et les conjoints. Ce qui, moi, m'inquiète encore plus que si ce n'était que la position du gouvernement. Parce que si c'est que la position du gouvernement, on peut dire, bon, ben, c'est les macronistes, etc. Mais comme c'est la représentation nationale de l'ensemble des tendances politiques de la France qui sont à l'Assemblée, de voir qu'on ne peut faire voter que l'ouverture des natifs et des conjoints par l'ensemble de la gauche et de la droite, finalement, en passant par le centre, c'est quand même inquiétant dans la mesure où cette représentation nationale ne nous considère pas comme des Français comme les autres, après les trois référendums pourtant.
Mais ça, c'est votre travail à l'Assemblée nationale, de les en convaincre, même si c'est compliqué, on le conçoit. On retient également, mais ça, vous l'avez dit hier matin, que les élections provinciales se tiendront le 28 juin, l'État les organisera. Il nous dit avec toutes les garanties de neutralité et de sécurité nécessaires. Vous êtes assuré de cette sécurité? On sait que c'est important dans une élection. Il y aura les forces de l'ordre. On sait qu'il y en a moins aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie. Il y aura les forces de l'ordre nécessaires pour assurer la sécurité des élections provinciales?
Oui, parce que pour répondre à votre interrogation, comme vous dites, c'est à vous de les convaincre. La Nouvelle-Calédonie, malgré tout ce qu'on peut dire sur la volonté des Calédoniens de rester français, les trois référendums, le déni de démocratie, il ne me semble pas avoir rien dit ces quatre dernières années et ne pas avoir été suffisamment à Paris pour défendre le bout de gras. Mais tout est vu depuis Paris sous l'angle du risque de la violence. C'est-à-dire que le dossier calédonien, désolé de l'appeler comme ça, mais à Paris on l'appelle le dossier calédonien, le dossier calédonien n'est vu que sous l'angle « est-ce que cette décision que je prends en tant que ministre ou en tant que député ou en tant que sénateur va engendrer des violences ?» On ne se pose pas la question de « est-ce que c'est démocratique ou pas ? Est-ce que ça fait partie des principes fondateurs de la République ou non ?» Et donc forcément que, comme ils ont peur de la violence, ils ont prévu les renforts. C'est le côté rassurant de l'affaire. C'est-à-dire qu'on va avoir une montée d'un nombre d'escadrons. Aujourd'hui, je crois qu'on a une douzaine d'escadrons de gendarmes mobiles en Nouvelle-Calédonie. On risque de monter jusqu'à 18, voire 20. Donc on va avoir les renforts nécessaires de manière à ce que les élections se déroulent le mieux possible.
Alors, le corps électoral. Les partisans de la France voulaient un dégel. Les indépendantistes n'en voulaient pas. Finalement, c'est un ajustement qui est proposé. C'est le terme retenu, un ajustement. Les natifs, c'est quelques 11 000 personnes. On y ajoute les conjoints. Pour vous, c'est insuffisant cette ouverture, hein. C'est pas ce que vous vouliez.
Ah ben non, on est très loin de notre revendication. Alors, il y en a qui voient le verre à moitié plein, qui est de dire, on fait pas une élection avec le gel du corps électoral. Il y a quand même plus de gens qui vont voter à ces élections provinciales-là que toutes les dernières depuis 2007 et le gel du corps électoral. Donc c'est une avancée, c'est pas une reculade du camp de la France. Mais pour moi, pour nous, les loyalistes, c'est une avancée totalement insuffisante qui ne pourra pas nous empêcher de continuer à revendiquer l'ouverture du corps électoral beaucoup plus large qu'on souhaite depuis le début, c'est-à-dire d'avoir un système glissant. Parce qu'en fait, on reste dans un système gelé aujourd'hui, sauf qu'on ouvre, on élargit ce gel aux conjoints et aux natifs. Mais tant qu'on ne revient pas à un système glissant, pour nous, le combat ne sera jamais fini. Je pense que c'est important de le dire. Et parce que si on donne l'impression de se satisfaire totalement de cette annonce de M. Lecornu, on risque d'enterrer notre combat. Et moi, je ne veux pas qu'on enterre notre combat. On peut considérer que c'est un crantage. Vous savez, les indépendantistes, toujours nous, on crante. On peut considérer que pour nous, c'est un premier cran. Mais ce premier cran doit en amener plusieurs autres.
Et pour l'instant, on n'a pas beaucoup de précisions. Donc sur les natifs, on sait à peu près 11 000 personnes supplémentaires. Sur les conjoints, en revanche, est-ce que vous avez plus de précisions sur qui sont les conjoints, quelles modalités pour s'inscrire, quelles sont les preuves qu'ils sont des conjoints de Calédoniens et de quel type de Calédoniens? Est-ce que les conjoints natifs pourront voter? Enfin, il y a beaucoup de questions quand même.
Oui. Alors, déjà, ce que l'on sait sur les natifs, et c'est la bonne nouvelle du jour dans l'intervention de Sébastien Lecornu, c'est que les natifs, quel que soit leur statut de droit coutumier ou de droit commun, seront inscrits automatiquement. Hein, parce que vous savez qu'auparavant, on a connu des inscriptions où les droits coutumiers étaient inscrits automatiquement et les droits communs devaient faire des démarches.
Pour la liste spéciale pour le référendum.
Exactement.
C'était comme ça.
Et donc là, au moins, Sébastien Lecornu dit non, il n'y a pas de disparité entre droit commun et droit coutumier. Tout le monde est inscrit automatiquement. Ça, c'est une bonne nouvelle. La deuxième chose maintenant, c'est les conjoints, c'est qui? C'est quoi? Eh bien, on ne sait pas trop. Déjà, on ne sait pas combien il y en a, parce que ce n'est pas enregistré, le nombre de mariages avec des citoyens calédoniens. On sait combien de gens sont mariés ou paxés, mais qui est paxé avec un citoyen calédonien, ça, ce n'est pas précisé. Et forcément, comme on n'a pas ce recensement, on ne peut pas faire une inscription automatique. Dans ce que l'on sait sur les conjoints, c'est qu'il y aura une démarche d'inscription à faire, une démarche déclarative, ça ne sera pas automatique. Maintenant, quelles seront les conditions? Est-ce que c'est un mariage? Est-ce que c'est un mariage et un pax? Est-ce que c'est un mariage et un pax au bout d'une certaine durée? Ça, on ne sait pas. Pourquoi on ne sait pas? Parce que Sébastien Lecornu a fait une annonce politique, mais on n'a pas encore le texte législatif, technique, qui vient préciser ces options. Alors, moi, mon rôle là-dedans, le rôle des loyalistes, et moi en tant que parlementaire, ça sera de se battre pour qu'il y ait moins de critères possibles, hein, pour qu'on puisse avoir des inscriptions les plus larges possibles. C'est-à-dire que si le gouvernement, je ne sais pas, propose une loi où on dit bah, c'est que les mariages et pas les pacs, et il faut être marié au bout de 15 ans, c'est un peu too much. Voilà. Donc, il va falloir être vigilant lorsqu'on va avoir la rédaction du texte.
Mais on peut penser que la rédaction, elle est déjà faite pratiquement, puisque le Premier ministre en parle, et puis le texte va être transmis.
Je ne crois pas parce que, oui, en tout cas, ils doivent être dessus ce week-end, voire en début de semaine, parce que les commissions vont vite arriver au Sénat et à l'Assemblée la semaine prochaine. Je ne crois pas parce que je sais que la décision a été prise tardivement sur la proposition conjoint et natif. Et je ne sais pas s'ils ont eu le temps de rentrer vraiment dans le détail avant de nous faire cette proposition.
Qui a été annoncé hier matin, on le rappelle. Voilà. Alors hier, vous écriviez que Sébastien Lecornu, ce que vous nous disiez il y a un instant, il n'a pas fait en fonction des Calédoniens, il a fait en fonction de l'intérêt de l'État et de l'Assemblée nationale. Et vous êtes quand même très sévère envers l'État. Hein. Vous dites c'est la violence qui guide la réflexion et non pas les principes fondamentaux de la République. C'est honteux, navrant, désespérant, insultant. C'est un vrai réquisitoire quand même. Est-ce que c'est le moment de se mettre à dos l'État ou de l'attaquer aussi fortement?
Non mais, enfin, pardon Elisabeth Nord, mais on a gagné 3 référendums pour rester français. Et peut-être qu'on a mal cru qu'en votant 3 fois, on serait considéré comme des Français comme les autres. Au moins par la France. Au moins par la France, je ne sais pas par l'ONU, mais au moins par la France. Mais de voir que l'État... Mais ce n'est pas seulement l'État, parce qu'on attaque l'État, j'attaque l'État, mais c'est la représentation nationale. Parce que ce n'est pas que la Macronie, c'est toute la classe politique, parce que c'est l'Assemblée nationale, qui finalement nous empêche d'avoir un droit de vote similaire aux autres régions de France. Mais je trouve que c'est insultant, oui, je l'affirme, pour des Français de l'autre bout du monde qui ont crié beaucoup plus fort que tous les autres Français, leur amour de la patrie, par 3 fois, récemment. Quel autre territoire de France, si ce n'est Mayotte peut-être? mais que l'autre territoire de France, ces 20, 30, 40 dernières années, a fait preuve d'autant de patriotisme et d'amour envers la patrie que la Nouvelle-Calédonie. Vous voyez, vous, en France, des grands défilés avec des drapeaux bleu, blanc, rouge. Vous voyez, moi, je vois des enterrements à Ouégoua, de gens qui ne sont jamais sortis de la Nouvelle-Calédonie, qui n'ont jamais quitté la Nouvelle-Calédonie, qui ne connaissent que la Nouvelle-Calédonie, voire peut-être même que la province Nord, voire peut-être même que Ouégoua. Eh bien, on enterre les jeunes là-bas avec le drapeau français sur un cercueil. Quel autre territoire de France fait ça ? Et de voir que le gouvernement central nous dit ben, « je suis désolé parce qu'en fait l'Assemblée nationale est incapable de voter un corps électoral ouvert », eh bien moi, vous savez quoi, ça me fait questionner sur notre rapport à la France et surtout le rapport que la France a avec nous. Est-ce que la métropole nous considère vraiment comme des Français comme les autres ? C'est la question que je vais poser à l'Assemblée nationale, parce que j'aurai l'occasion, avec cette loi organique, de m'exprimer encore une fois devant mes collègues.
Alors justement, cette loi organique qui vient d'être annoncée, elle va suivre tout un processus, mais elle doit passer au Sénat d'abord, puis à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale, le problème est toujours le même. Est-ce qu'il y aura une majorité ? Est-ce que Sébastien Lecornu est sûr, en présentant le texte, qu'il va être adopté par les députés ? En rappelant ce que vous disiez tout à l'heure, il y a quand même trois grands blocs, et on ne sait pas ce que chacun va faire.
Il me semble avoir vu une déclaration de Marine Le Pen qui se satisfaisait de la proposition du gouvernement. J'ai vu Marine Le Pen a tweeté, comme on dit en métropole, elle a même fait une publication sur Facebook. Ça vaut communiquer aujourd'hui, les réseaux sociaux. Et elle se satisfait de la proposition de Sébastien Lecornu. C'est pour ça que je dis, et je pense affirmer sans trop me tromper, que Sébastien Lecornu a fait en fonction de l'équilibre à l'Assemblée nationale. Je pense que lui est déçu de sa proposition. Je pense que Sébastien Lecornu, lui, voulait plus. Espérer plus, mais qu'avec cette Assemblée nationale-là, il ne pouvait pas aller plus loin. Et donc, je pense que, oui, ça a été, pas dealé, on ne peut pas dire le mot dealé, mais il a été convenu avec les forces politiques de l'Assemblée nationale que c'est un ajustement qui pouvait passer. Et donc, je pense qu'on aura une majorité sur ce texte-là. Enfin, qu'on aura. Ce n'est pas mon texte. Moi, je ne veux pas ce texte-là. Mais je ne pourrais pas voter contre. C'est une ouverture. Mais ce n'est pas suffisant. Donc je pense que ce texte sera voté.
Alors le Rassemblement national, on peut penser effectivement qu'il le votera cette fois-ci. LFI, en revanche, vous attendez à une obstruction comme ils l'ont fait sur les textes précédents concernant la Nouvelle-Calédonie, non ?
Non mais la France insoumise, ça ne sert à rien d'en parler. Ils vont nous faire le procès en colonisation, en décolonisation, en peuple premier, en apartheid, enfin ça va être horrible. Ils vont déposer des milliers d'amendements pour faire de l'obstruction, mais c'est là où le passage par loi organique est important. Parce qu'une réforme par un changement de la Constitution, c'est-à-dire un projet de loi constitutionnelle, on ne peut pas faire comme on a fait pour le report des élections provinciales, c'est-à-dire convoquer ce qu'on appelle une commission mixte paritaire, une CMP. Une commission mixte paritaire, c'est quoi ? C'est que si l'Assemblée nationale et le Sénat ne votent pas le même texte, on réunit 7 sénateurs et 7 députés dans une petite chambre obscure de l'Assemblée nationale et ils se mettent d'accord très vite sur l'équilibre d'un texte. Et comme ça, hop, c'est voté derrière. Ça n'existe pas, cette CMP-là, cette petite commission obscure, n'existe pas pour un projet de loi constitutionnel. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à changer la Constitution avec la Nouvelle-Calédonie, parce qu'en fait, les allers-retours entre le Sénat et l'Assemblée nationale peuvent durer jusqu'à l'infini. Donc, je pense que, parce que aussi c'est une loi organique qui n'oblige pas un changement de la Constitution, ce texte ira au bout.
Auparavant, le Congrès de la Nouvelle-Calédonie va être saisi pour avis. On imagine que le débat sera un peu vif aussi, boulevard Vauban, étant donné la position du FLNKS qui refuse toute ouverture. Mais là, il devrait y avoir une majorité, a priori, pour un avis favorable, même s'il n'est pas décisif, s'il est uniquement consultatif.
Je pense que ça va être intéressant de voir la position de l'UNI, par exemple. Que dit l'UNI sur cette ouverture ? Parce qu'ils ont été prudents au Saria quand on y était. Que va faire Calédonie ensemble aussi ? Parce que moi, je me souviens aussi de discours de gens du milieu, hein, de la voix du milieu, qu'on ne pourrait pas aller aux élections avec une ouverture du corps électoral, qu'il fallait se satisfaire du corps électoral constitutionnalisé, ou qu'on pourrait faire que les natifs. Hein, c'était la proposition du sénateur naturel de faire que les natifs. Ils avaient déjà écarté les conjoints. Donc ça va être intéressant de voir la position du bloc central, entre guillemets, comme on dit chez nous.
Alors vous-même, vous allez défendre, c'est pas votre texte, vous l'avez dit, vous partez quand d'ailleurs à l'Assemblée nationale
pour... Quand je trouve un billet d'avion, Elisabeth Noir, je suis dans la même situation que beaucoup de Calédoniens, j'ai du mal à trouver un billet d'avion. Voilà, je sais pas quand je pars, il faut que je parte le plus vite possible, mais j'ai pas de billet.
Et une fois sur place, c'est pas votre texte, vous allez défendre des amendements pour essayer de faire évoluer ce texte?
Moi, je vais porter un amendement qui revient au système glissant. Au système glissant. Ça ne passera pas pour deux raisons. Il n'y aura pas une majorité à l'Assemblée nationale qui voudra le soutenir. Et deux, comme c'est une loi organique, le gouvernement va certainement me dire que cet amendement sera retoqué par le Conseil constitutionnel. Parce qu'un système glissant doit passer par une réforme de la Constitution et pas par une loi organique. Mais je vais le faire pour une raison politique d'affichage. Pour dire à l'Assemblée nationale, notre combat n'est pas fini. Ne croyez pas que ce que vous votez là est suffisant à nos yeux. C'est un ajustement, ce n'est pas le règlement d'une situation injuste envers des milliers de Français en Nouvelle-Calédonie.
Vous parliez du Conseil constitutionnel, parce que la loi organique, une fois qu'elle est adoptée, si elle l'est, elle doit être soumise au Conseil constitutionnel. Là aussi, vous pensez que Sébastien Lecornu a verrouillé, entre guillemets, les choses et que le Conseil constitutionnel va adopter, malgré ses positions antérieures, une ouverture partielle, un ajustement?
Je ne sais pas. Je préfère dire que je ne sais pas. Je ne sais pas si Sébastien Lecornu a verrouillé le Conseil constitutionnel ou pas. Vous savez, elle est sage. À un moment donné, on peut se demander s'ils ont vraiment pris de sagesse ou pas. Je ne sais pas. J'espère que le Conseil constitutionnel ne va pas retoquer, sous la pression des indépendantistes, l'ouverture aux conjoints. Parce que c'est ça le risque. Je pense que les natifs, ça va passer. Mais l'innovation de Sébastien Lecornu, quelque part, c'est d'avoir ajouté les conjoints. Et j'espère que le Conseil constitutionnel ne va pas retoquer ça. Parce qu'il va y avoir, attention, la machine de la gauche qui porte le FLNKS en métropole va se mettre en marche. Et là, il y a du juriste, il y a du juge, il y a du spécialiste en droit international, il y a du journaliste, il y a du politique. La machine va se mettre en route. Pour expliquer que c'est un passage en force, que c'est une recolonisation, que le FLNKS est le même discours qu'on a entendu 20 000 fois. Ils vont se mettre en route. Et il faudra être solide. Nous, on le sera, mais il faudra que le Conseil constitutionnel soit solide aussi.
Alors, toujours est-il, c'est un peu compliqué tout ça. On a vu le Congrès, le Sénat, l'Assemblée nationale, le Conseil constitutionnel. Tout ça, ça va prendre du temps. Est-ce que le calendrier va pouvoir être tenu? Et s'il ne l'est pas, qu'est-ce qui se passe? On votera aux élections provinciales avec un corps gelé parce qu'on n'aura pas pu l'ouvrir.
Alors, déjà, les choses vont très vite parce que je cherche un billet d'avion parce que les commissions sont convoquées dès la semaine prochaine. J'ai jamais vu ça. On fait une commission au Sénat mardi et une commission à l'Assemblée nationale mercredi. Enfin, c'est jamais vu un rythme aussi soutenu de la part du Parlement pour une loi. Donc tout est en mode d'urgence, ça clignote rouge de partout. Donc pour l'instant, tout est fait pour que ça soit voté dans les temps, avec derrière la commission mixte paritaire qui soit aussi prête dans les temps. Je pense aussi que le Haussaria ici va avancer en temps masqué, considérant que le texte peut être voté pour lancer les principes d'inscription et de déclaration des natifs et des conjoints. Maintenant, votre question, elle est... S'il y a catastrophe, et si ce texte n'y arrive pas, je l'ai toujours dit que moi, je n'envisageais pas des élections provinciales avec le même corps électoral que ce qu'on a connu là. Je pense qu'on est encore dans un déni de démocratie avec cette proposition, mais que là, si vraiment, pour le coup, la représentation nationale, parce que c'est ça que ça veut dire, quelque part, la catastrophe, c'est-à-dire que l'Assemblée nationale n'est pas capable de voter en 2026, une inscription pour des natifs et des conjoints, je pense qu'on est en rupture avec la France à un moment donné. Et je pense qu'il ne faudra pas se laisser faire. Oui.
Vous savez, vous n'avez pas encore établi la stratégie, vous ne pouvez pas la dire encore au cas où il y a un gel du corps électoral, un maintien du gel du corps électoral.
On verra ça plus tard. Je pense qu'il y a des associations comme Un cœur, une voix qui se prononcent aujourd'hui et d'autres. Qui sont là pour aussi mobiliser les citoyens pour dénoncer ce genre de situation. Je pense qu'à un moment donné, l'État montre qu'il a peur des mobilisations populaires. Alors, je n'appelle pas de la violence, moi, jamais. Jamais, aucune violence. Par contre, une mobilisation de milliers de Calédoniens qui montrent leur désaccord face à une situation, il ne faut pas avoir peur de la faire. Moi, j'ai été convaincu que la mobilisation des Calédoniens lorsqu'on a passé le texte sur Bougival a été utile pour que Marine Le Pen dise nous, nous soutiendrons l'ouverture du corps électoral. Donc je pense que les mobilisations de Calédoniens sont toujours utiles. Alors, après, comme je vous l'ai dit, je pense que le texte passera. Je pense qu'il a une majorité. Mais la question, c'était, et s'il ne passe pas? Je pense que s'il ne passe pas, il ne faut pas rester les bras croisés et accepter notre sort de condamné.
On va encore avancer dans le temps. Admettons, ça passe. Il y a les élections provinciales. Là, tout de suite, le Premier ministre le disait déjà, des discussions vont reprendre après les élections provinciales. Vous y êtes prêts? On va reprendre encore des discussions sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie? Ça n'arrête jamais.
Alors oui, ça, malheureusement ça n'arrête jamais et Dieu sait que je prie tous les soirs pour que ça s'arrête un jour. Mais déjà nous on a clairement dit à Sébastien Lecornu et au FLNKS lors de la dernière multilatérale que nous on ne serait pas là si y a une opposition sur l'inscription des natifs et des conjoints. C'est-à-dire que si c'est pour fermer la porte à toute évolution du corps électoral, même une ouverture qui ne nous satisfait pas, nous, on ne sera pas là pour discuter de l'accord de Kanaky, de Deva, de Bougival, des transferts de compétences, de la nationalité, de l'État. On discutera de rien, il ne se passera rien. Parce que, je répète ce que je dis depuis quelques jours déjà, quelques semaines, je suis en désaccord avec Sébastien Lecornu. Quand il dit le statu quo n'est pas une option, eh bien, cher ami, monsieur le Premier ministre, si. Parce qu'en fait, le statu quo, ça s'appelle la Calédonie française. Et que nous, on est plutôt heureux d'être dans le statu quo. Le seul truc qui nous gêne dans le statu quo, c'est le gel du corps électoral. Mais le statu quo, fondamentalement, on vient de voir qu'on demande des milliards encore d'euros à l'État. Parce qu'on est sous perfusion pour relancer notre économie, pour relancer notre emploi, pour relancer nos systèmes sociaux, nos systèmes de santé. Donc, considérer que le statu quo garantit qu'on est français et que les compétences sont gérées par l'État, ça ne me semble pas être une mauvaise décision compte tenu de la situation de la Nouvelle-Calédonie. Voilà. Donc moi, je suis en désaccord avec Sébastien Lecornu quand il dit que le statu quo n'est pas une solution. Nous, on voudra bien discuter si et seulement si on fait des efforts sur l'ouverture du corps électoral.
On verra donc ça après les provinciales. Et avant les provinciales, vous en êtes où? On veut parler un peu politique, on va sortir de ces annonces. Ça se présente comment, les provinciales? On entend beaucoup de choses. Union, pas union, une seule liste, plusieurs listes. Vous en êtes où? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui?
Nous, on travaille, les loyalistes, Sonia Baquès, Gilles Brial, moi-même, nos maires, Antoine Romain, Sonia Lagarde, Nina Julier, Cynthia Jean. On travaille activement à ce qu'on réunisse la famille non-indépendantiste pour ces élections provinciales. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on n'a plus le luxe que vous avez connu, Elisabeth Noir, à la grande époque, de la majorité sur l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie, et une majorité tellement forte qu'on peut se permettre une division et que le pouvoir se joue entre nuances non-indépendantistes, entre tendances non-indépendantistes. C'est la grande époque, ça. Le RPCR contre l'Avenir Ensemble, le Calédonie Ensemble contre le Rassemblement. Ça, aujourd'hui, ça n'existe plus. Aujourd'hui, le rapport de force, il est entre non-indépendantistes et indépendantistes. Et donc, si on se divise dans le camp non-indépendantiste, on ouvre la voie à la gestion de la Nouvelle-Calédonie par les indépendantistes, et voire même la gestion de la province sud par les indépendantistes. Donc, on n'a pas le luxe, on n'a plus le luxe démographique et démocratique de la division. Donc, il faut qu'on ramène déjà notre principal partenaire, notre principal allié avec qui on a tout fait, l'institutionnel, le congrès, la province sud, quel rassemblement? Nous, il faut qu'on fasse l'union avec le rassemblement d'Alcide Ponga. C'est fondamental. Et donc, on tend la main, on est en discussion avec eux pour que ça aboutisse. Mais il ne faudra pas que le rassemblement d'Alcide Ponga. Je vois qu'il y a des initiatives qui se montent aujourd'hui. De gens qui, par exemple, ont été contre l'accord de Bougival. Je pense à un mouvement qui se lance, Volonté Calédonienne, je crois. Il faut qu'on discute aussi avec ces personnalités-là. Il ne faut pas les écarter d'un revers de main. Parce que, fondamentalement, il y a des nuances entre nous. Il y en a qui sont plus départementalistes, d'autres plus autonomistes. Mais on veut tous la Calédonie française et on veut tous que les Calédoniens aient un passeport français. La question, c'est quelle répartition des compétences. Mais on veut tous la même chose. Et je crois que, fondamentalement, il y a suffisamment de place sur une liste, Elisabeth Noir, pour que tout le monde ait l'occasion de pouvoir dire quelque chose dans cette campagne.
Et cette union, elle doit se faire dans les trois provinces. Je ne sais pas si dans la province des îles, vous serez en mesure de conduire des listes, mais dans le nord, dans le sud,
alors il faut... Alors vous imaginez bien que si elle doit se faire en province sud, Il faut vraiment qu'elle se fasse en province nord et en province des îles. Moi, je n'abandonne pas l'idée qu'une liste d'ouverture se monte en province des îles et qu'elle aille chercher un ou deux sièges. Pourquoi ? Mais il y a un bilan à mettre en face des indépendantistes en province des îles. Vous avez vu la province des îles, c'est la province par habitant qui gagne le plus d'argent, plus de, quasiment 900 000 francs par habitant d'argent public en province des îles. Le pont de Mouly de 4 milliards, où il y a trois voitures qui passent, et l'hôtel du Ouadrabé, 3 milliards, qui n'a jamais ouvert. Donc moi, je pense qu'il y a des choses à dire en province des îles pour qu'il y ait une place que, pour les non-indépendantistes, ou en tout cas pour une liste d'ouverture. Donc moi, je suis déterminé à faire en sorte que ces provinciales se passent le mieux possible pour le camp de la France, pour le camp non-indépendantiste. Alors malheureusement, je vais devoir partir à Paris pour défendre une énième fois le bout de gras. La consigne que moi je donne aux personnalités de Génération INSEE en Nouvelle-Calédonie et plus largement aux loyalistes, c'est de tendre la main à toutes les composantes non-indépendantistes de Nouvelle-Calédonie pour qu'on avance ensemble.
La campagne va être très brève ?
Oui, ça va être très court, ça va être à moi. J'ai envie de dire tant mieux. Tant mieux, comme ça on ne va pas perdre trop d'énergie et puis on ne va pas trop embêter les Calédoniens trop longtemps. Je pense que les Calédoniens, quand même, savent pour qui à peu près ils voteront. Je crois que ça nous permettra, ces cinq semaines de campagne, de mettre en avant nos mesures économiques. Parce que je crois que la séquence qui va s'ouvrir désormais en Nouvelle-Calédonie ne sera moins une séquence institutionnelle qu'une séquence de relance économique. Sonia Backès a fait une proposition ce matin qu'elle a relayée auprès du Premier ministre, qui est de transformer les 6 milliards qui venaient en déduction de l'impôt sur les sociétés pour alléger les cotisations patronales et salariales des entreprises. Je pense que c'est fondamental. Donc nous, on a une batterie de mesures économiques et sociales à proposer aux Calédoniens dans le cadre de cette campagne provinciale et territoriale, parce que c'est l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie qui est concernée. Donc on a hâte aussi de les mettre en avant.
Avant de conclure, le temps passe, Nicolas Mazetoff, un petit mot d'actualité également. Je sais que c'est un sujet qui a retenu votre attention. C'est le Vanuatu, ou plutôt le déplacement au Vanuatu d'une délégation commerciale conduite par Christian Théin. Ça vous a beaucoup choqué? Vous estimez que le Vanuatu fait de la provocation?
Mais c'est une honte absolue. Une honte absolue. Pardon, mais nous, on est la Nouvelle-Calédonie, ce n'est pas une serpillière sur laquelle on s'essuie. Hein. La Nouvelle-Calédonie, c'est déjà un territoire français, mais c'est aussi un gouvernement, avec un président du gouvernement, avec un membre du gouvernement en charge de l'économie, avec un parlement, qui est le congrès de la Nouvelle-Calédonie. Et donc, quand on veut faire de la coopération régionale, ça se fait de gouvernement à gouvernement, de premier ministre à président du gouvernement, de ministre de l'économie à ministre de l'économie. C'est pas la République bananière ici. Hein, on n'est pas le Zimbabwe. D'accord ? Donc en fait, le FLNKS ne représente rien au Vanuatu. Le FLNKS, s'il va au Vanuatu, c'est pour rencontrer un parti politique frère. Ça, c'est leur problème. Mais il ne peut pas parler au nom de la Nouvelle-Calédonie et encore moins mener une délégation avec des patrons issus d'organisations patronales comme le MEDEF, qui se sont fait piéger dans l'histoire. On a compris qu'ils n'étaient pas du tout associés à la décision. Donc, moi, je trouve que le Vanuatu, sans gouvernement, parce que c'est sans gouvernement qui lance cette invitation, le gouvernement officiel du Vanuatu, le Premier ministre, il fait de l'ingérence en invitant le FLNKS et en disant, ben moi, plutôt que de traiter avec le président Alcide Ponga, je traite avec le FLNKS. Il choisit un parti politique. Donc, le Vanuatu, on doit cesser toutes les opérations d'échange avec eux. Cynthia Jean, la maire d'Imbéa, qui est jumelée avec Port-Vila, a coupé toutes les relations avec le Vanuatu. Christopher Gigès a annoncé en faire de même. Et puis en plus, vous savez quoi, les échanges commerciaux avec le Vanuatu, franchement, moi je préfère qu'on traite avec l'Australie ou la Nouvelle-Zélande, qui ont un peu plus de PIB que le Vanuatu. Hein, parce que le Vanuatu, à part être une succursale de la Chine, hein, c'est les nouvelles hébrides chinoises maintenant, le Vanuatu. Hein, vous savez, au Vanuatu, quand on va voir le bâtiment du Premier ministre, c'est écrit « Ce bâtiment a été financé par la République populaire de Chine ». Vous imaginez ce qu'on dirait de la France si, à l'Élysée, on en saurait, ça serait écrit « Ce bâtiment a été financé par Donald Trump, président des États-Unis d'Amérique ». Donc, le Vanuatu est une colonie chinoise. Nous n'avons rien à faire avec eux, surtout s'ils font de la provocation.
Et Christian Théin encore aggravé son cas, si j'ose dire, depuis le Vanuatu.
Vous me faites du mal, là, Elisabeth Noir.
Depuis le Vanuatu, il annonce que Matthew et Hunter appartiennent, bien sûr, au Vanuatu. Ça aussi, c'est un sujet qui est vraiment un casus belli entre la Calédonie et le Vanuatu, entre la France et le Vanuatu.
Alors, il n'y a pas de casus belli. C'est à nous. Donc il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de négociation, c'est à nous. Et ça démontre aussi toute l'incompétence des leaders indépendantistes du FLNKS et de Christian Théin notamment. Christian Théin, ça veut dire que lui, en fait, il serait capable de céder des bouts de territoire de son propre pays. Mais combien même on serait indépendant ? Imaginez Christian Théin, un jour, gagne les élections, c'est l'indépendance, c'est Kanaki, Christian Théin est président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Il cède des bouts de territoire ? Mais il va céder quoi à la fin ? Lille-Ouin aussi ? Enfin, non, mais je veux dire, il y a un moment donné, non, mais il n'y a pas à céder, qu'on soit indépendant ou pas d'ailleurs, une partie de notre territoire. Parce que, un, c'est le territoire français, puis deux, c'est le territoire calédonien aussi. Donc, ça montre finalement toutes. Ces gens-là sont prêts à tout pour l'indépendance, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire qu'ils sont prêts même à sacrifier non seulement leur population, mais leur espace vital aussi. Donc, il n'y a rien à céder aux Vanuatu, français ou pas.
Merci pour ces précisions, Nicolas Mezov. Donc, on l'a bien compris, vous attendez un avion. Dès que vous en avez un, vous partez à Paris.
S'il y a quelqu'un qui veut bien me laisser une place, je la prends volontiers.
L'appel est lancé et vous allez défendre à Paris. Donc cette loi qui n'est pas la vôtre.
Je ne vais pas la défendre. Je vais la voter, évidemment, parce que quelle tête j'aurai à ne pas voter un élargissement du corps électoral. Mais je vais surtout défendre le fait que ce n'est pas fini.
Voilà. Merci en tout cas d'être venu dans les studios de Radio Rythme Bleu en ce 8 mai.
Merci beaucoup.
Pour ce magazine Transparence.